Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à entendre trois textes. Le premier, c'est aussi un des textes qui nous était recommandé à la lecture d'aujourd'hui. Et les deux autres, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean, sont des textes choisis par les familles des baptisés. Donc, dans le Deutéronome, d'abord, au chapitre 4, les versets 32 et suivants. Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre. Interroge d'un bout à l'autre du monde, est-il rien d'arrivé aussi grand? A-t-on rien entendu de pareil? Est-il arrivé à un peuple d'entendre comme toi la voix d'un Dieu parlant au milieu du feu et de rester en vie? Ou bien est-ce qu'un Dieu a tenté de venir prendre pour lui une nation au milieu d'une autre par des épreuves, des signes, des prodiges, par des combats, par sa main forte et son bras étendu, par de grandes terreurs à la manière de tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous en Égypte sous tes yeux? À toi il a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour faire ton éducation. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles. Parce qu'il aimait tes pères, il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait sortir d'Égypte devant lui par sa grande force pour déposséder devant toi les nations plus grandes et plus puissantes que toi, pour te faire entrer dans le pays et te donner comme patrimoine ce qui arrive aujourd'hui. Reconnais-le aujourd'hui, réfléchis. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Garde ses lois, ses commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi, afin que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Alors, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, les versets 29 à 31. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, la rencontre entre Jésus et Nicodème. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme pourrait-il naître de nouveau s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. » Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël, et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous dis les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal hait la lumière. Il ne vient pas à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean de son côté baptisait à Aïnon, non loin de Salim où les eaux sont abondantes. Les gens venaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il arriva qu'une discussion concernant la purification opposa un juif à des disciples de Jean. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, voici qu'il se met aussi à baptiser et tous vont vers lui. Jean lui fit cette réponse : Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui fut donné par le ciel. Vous-même, vous êtes mes témoins que j'ai dit : Moi, je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse et l'époux, quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut que je grandisse, et moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage ratifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé dit des paroles de Dieu qui lui donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verrait pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Père, à travers ces témoignages, éclaire-nous pour que nous puissions saisir l'essence même de la vérité et de l'espérance. Amen. Et je vous invite à prendre le cantique 291 avant de revenir là-dessus. Merci Père de nous donner ainsi de cette possibilité de chanter ta louange et de chanter avec cette louange l'espérance qu'il y a en toi. Amen. Le livre du Deutéronome a été écrit à la fin de la royauté en Israël, sous le règne de Josias, dans une période qui est une petite embellie, mais qui reste une période difficile et troublée. Et dans le passage que nous avons lu, il y a un témoignage assez génial, un condensé finalement de pratiquement toute la première alliance, tout l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez d'abord Dieu qui est le Créateur, qui est posé comme cela. Il n'y a pas d'autre Dieu plus grand que celui qui a créé le monde, en gros. Ça, c'est la première, c'est le début, si je puis dire. Et ensuite, vous avez Dieu qui intervient dans l'histoire, quelquefois de manière un peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce Dieu qui intervient dans l'histoire intervient aussi pour le peuple d'Israël en particulier. Et donc, il y a un rappel de l'Exode, il y a un rappel de la rencontre avec Dieu à l'Horeb, etc. Enfin bref, il y a un tas de choses qui sont derrière ce tout petit passage du Deutéronome. Ce qui est intéressant quand même dans cette affaire, c'est qu'il y a le don de la loi qui est mentionné avec difficulté ou choses positives. La loi, évidemment... on aime la contester, je ne sais pas si c'est caractéristique de la France, mais on est un peu comme ça. Hein. C'est parti de notre manière de voir, de vivre. Mais c'est quand même nécessaire, il en faut un minimum pour pouvoir vivre en compagnie les uns avec les autres. Sinon, c'est une anarchie qui laisse le terrain déblayé pour que les plus forts prennent la direction des choses. Mais cette loi qui est donnée, c'est pour le bonheur du peuple. C'est ce que dit le texte. Je trouve que c'est quand même intéressant, hein, de cette problématique qu'il y a au début du Deutéronome et qu'on va retrouver à la fin de ce livre, lorsque Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, etc. Tu choisiras la vie pour que tu puisses vivre. Il y a un très beau passage à la fin du Deutéronome qui pose le choix du Deutéronome comme cela. Et déjà, dans le chapitre 4, donc au début de ce livre, eh bien, il y a la loi qui est donnée pour le bonheur. Je trouve ça intéressant de s'arrêter une minute là-dessus, parce que Dieu nous donne les moyens de vivre heureux. C'est ça. C'est un Dieu qui vient pour le bonheur. Je ne sais pas si vous faites une différence avec la mythologie. Vous prenez la mythologie grecque, vous verrez qu'il n'est pas du tout question du bonheur des hommes, je veux dire, dans ce type de mythologie, mais surtout du bonheur des dieux qui se font vraiment plaisir, se chamaillent entre eux, etc., et utilisent les hommes au gré de leurs caprices, finalement, ce qui n'est pas du tout le cas de l'ancienne alliance, où il y a quand même une avancée importante en ce qui concerne l'humain et la théologie, évidemment. Ça va de soi. Alors ces paroles, elles sont là, et ce qui est intéressant, ces paroles, elles sont là, et ce qu'il est dit, mais regarde, réfléchis. Je crois que c'est bien. Alors, c'est bien de pouvoir dire, ne prends pas ces paroles comme cela, boum, et puis on y va, mais vois, regarde autour de toi, regarde le monde, hein, contempler le monde. On peut être illuminé par la contemplation du monde. On peut être illuminé aussi par la contemplation d'un événement, aussi modeste soit-il, qu'il y a dans nos vies. Quelque chose qui aussi simple que préparer un plat pour une maison, une maisonnée ou des choses comme cela, où on se dit on va bien le faire. Mais il se passe quelque chose parce qu'on fait pour les autres, pour que les autres puissent vivre une action qui est là. Regardez autour de vous et réfléchissez, qu'est-ce que ça signifie que de recevoir deux enfants comme cela, comme on l'a fait là il y a quelques minutes, dans une communauté finalement, alors qu'eux ne savent rien, etc., que ce sont leurs parents, les parrains, marraines, les familles qui prennent la décision pour ces enfants. Alors c'est vrai qu'ils seront appelés à un moment donné à confirmer ces engagements, ces événements qu'ils ont vécus aujourd'hui, évidemment quand ils seront un peu plus grands, quand ils auront 15-16 ans. Ils seront considérés comme adultes. Mais il n'empêche, qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on s'arrêtait pour réfléchir, franchement. Hein, si on amène ainsi des enfants, c'est qu'on a une confiance en Dieu. Hein, c'est que Dieu est du côté de ses enfants aussi, comme il est du côté de tous ceux qui sont aussi faibles que ses enfants, physiquement parlant, j'entends. Voilà, il y a là une invitation du peuple à la fidélité, à la parole de Dieu, à la présence de Dieu dans l'histoire des hommes, à la présence de Dieu dans l'histoire du monde, finalement. Je crois que c'est important, parce que le peuple hébreu ainsi est invité à être lui-même. La spécificité de ce peuple hébreu, c'est précisément Dieu, ce Dieu unique qu'il découvre petit à petit à travers les messages des prophètes pour nous amener à saisir que ce Dieu est un Dieu qui, même si parfois il est difficile à vivre, est quand même un Dieu d'amour, qui invite à la liberté aussi. Parce que toute l'histoire de l'Exode, toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est un apprentissage de la liberté avec Dieu. La liberté des hommes et du monde et des peuples en présence de Dieu. Quelque chose qui est, je crois, de l'ordre de l'espérance, de la dignité humaine. Être pour le peuple, être en Dieu, avec Dieu. C'est l'identité du peuple hébreu. C'est toujours l'identité du judaïsme, d'ailleurs, aujourd'hui encore. Tout est, pour le monde juif, tout tourne autour de cette présence de Dieu et du message de la première alliance. Ce qui est intéressant, c'est que Nicodème est un notable juif de l'époque de Jésus, donc on est bien après, des 6-7 siècles après le Deutéronome. C'est un notable, donc vraisemblablement un pharisien, qui se pose des questions. Lui aussi, il aime bien voir, réfléchir et comprendre. Il fait partie de ces gens. Et il ne prend pas la parole comme ça. Pose des questions. Il a bien entendu parler de Jésus, évidemment. Et il vient le trouver pour lui poser une question sur les signes que Jésus accomplit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne répond pas à la question. Je vous ai déjà dit que Jésus était énervant, mais parfois, mais je ne sais pas si Nicodème a été surpris par la réponse de Jésus qui ne lui répond pas, en fait, a priori, bien sûr. Mais dans tous les cas, on n'a pas une réponse directe. Jésus répond à la question sur les signes de Jésus par la nouvelle naissance. Je dirais qu'il répond à côté, comme pour les paraboles. C'est les paraboles, ça veut dire parler à côté. Il répond à côté un petit peu sur la question de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réaction de Jésus, finalement? Je pense que derrière la question de Nicodème, qui est une question de façade, qui porte sur les apparences, finalement, Jésus a opéré des signes, etc., on gamberge beaucoup, savoir comment il a fait des guérisons, est-ce qu'il a marché sur l'eau, etc. Après tout, on s'en fout, finalement, ce n'est pas très important de dire. L'important, c'est de savoir ce que ça signifie, véritablement. Or, on a l'impression que Jésus répond à une question que Nicodème n'a pas formulée, mais qu'il a quand même posée. Il y a derrière cette question de façade une autre question qui est plus importante. Ça nous arrive souvent. Quand on rencontre quelqu'un, vous savez, on lui pose une question, mais en fait, il y a derrière cette question autre chose. Jésus, c'est un anachronisme, ce que je dis, mais est un fin psychologue. Vous voyez, il n'a pas lu Freud, mais, mais Freud a lu Jésus, en revanche. Voyez, parce que je ne sais pas si vous avez lu du Freud, mais je peux vous dire que c'est bourré de références bibliques. Passons, ce n'est pas l'objet d'une prédication. Mais il y a derrière la question de Nicodème, vraisemblablement, une angoisse très forte. Une angoisse qu'on appelle des angoisses existentielles. Quelque chose qui lui tient à cœur dans son existence. Quelque chose qui le perturbe, qu'il travaille dans sa vie profondément, véritablement. Cette question, c'est comment vivre dans la vérité? Quelle est l'espérance? Quel est le sens de la vie, finalement? Il y a cette angoisse qui est là. Qu'est-ce qui se passe après la mort, et ainsi de suite. Il y a des questions qui sont là dans nos vies, comme elles sont dans la vie de Nicodème, finalement, qui ressortent à travers des comportements, à travers des questions qui ont l'air, finalement, d'un second ordre, mais qui sont véritablement importantes, finalement. Alors Jésus lui dit la nouvelle naissance. Il lui dit, en gros, sans parler de formalisme, de rite, de lieu où les choses doivent se passer, ce n'est pas tellement la préoccupation de Jésus, mais il lui dit, voilà, il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Dire, finalement, il le compare au vent, dont on ne savait pas à l'époque comment ça fonctionnait. Ça restait très mystérieux. Et l'Esprit est comme le vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va, où il va, et pourtant tu ressens sa présence. Le Saint-Esprit est ainsi. Nous ressentons la présence de l'Esprit-Saint à travers des signes qui sont là, à travers des moments de nos vies où nous sommes au-delà de nous-mêmes finalement, au-delà peut-être de nos moyens tels que nous les percevons, et pourtant que nous avons en nous. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va attirer Nicodème dans son discours vers une prise de conscience d'un amour qui va être présent, un amour qui est fort finalement dans le monde et qui fait vivre le monde, et que le Saint-Esprit est là pour nous faire saisir. Hein, Dieu a tellement aimé le monde finalement, hein, et Dieu est là pour le bonheur du peuple, pour le bonheur des êtres humains finalement. Car le message de Jésus s'inscrit tout à fait dans la suite du message de certains prophètes, comme celui qui a écrit la péricope que nous avons lue du Deutéronome. Oui, on est dans la suite. Finalement, l'évangile est là pour nous faire vivre dans la joie aussi, évidemment. Ça n'exclut pas les difficultés, évidemment. Ce serait naïf et stupide de le dire, mais ça nous permet de les affronter, de les négocier, peut-être de les dépasser aussi. Peut-être ça la vérité, cette vérité qui est importante, qui nous place dans l'orbite, si je peux dire, de la parole de Dieu, finalement. C'est une question ontologique, finalement. C'est-à-dire que si nous saisissons qu'il y a cette présence de l'Esprit que nous signifions par le baptême, entre autres, hein, évidemment, si nous la saisissons, cette présence de l'Esprit, si nous laissons aller à l'Esprit, véritablement, alors le monde change. Alors, il reste le même, ça c'est sûr, mais notre perception du monde va changer. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. Notre perception du passé, du présent et de l'avenir. Il y aura pour cela une perception nouvelle. Perception nouvelle parce que dans tous ces événements qui sont là et dans ce que nous espérons, il y a des moments de lumière, des moments d'intensité de vie qui sont là, des moments de vérité aussi. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est ça, la nouvelle naissance. Alors, évidemment, on est dans le discours de l'évangile de Jean, où le partenaire de Jésus reste toujours basique. Hein. Comment retourner dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau, évidemment. C'est une sorte de provocation qui est de l'ordre d'un matérialisme basique et naïf, un peu bébête. Non, c'est pas ça, évidemment. Non, l'œuvre de l'Esprit, la nouvelle naissance dans l'Esprit, c'est savoir que cet Esprit est déjà en nous et que cet Esprit, il faut le laisser s'épanouir, laisser vivre, il faut le laisser nous saisir véritablement pour pouvoir nous transformer, nous changer. C'est ça l'éternité, nous faire entrer dans quelque chose qui dépasse nos événements, quelque chose qui dépasse nos vies, qui nous transporte au-delà de ces vies de nous-mêmes. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Luc, nous avons lu, il y a quand même ces passages qui sont curieux, hein, tendre l'autre à la joue gauche, de donner son manteau, etc. Enfin bref, hein, à celui qui le demande. Et je crois que c'est tout à fait formidable. Vous savez qu'un des saints célébrés par le catholicisme, c'est Saint Martin. Il y avait plein d'enfants qui se sont appelés Martin dans le monde, hein, je veux dire, en l'honneur de Saint Martin. Vous savez qu'il était centurion, il était officier romain. Hein. Et alors, il donne la moitié de son manteau. Et alors, les gens disent, ouais, il a donné la moitié, mais alors une moitié. Hein? En fait, le légionnaire possédait en titre propre la moitié du manteau. L'autre moitié appartenait à la Légion. Donc, Martin de Tours, lorsqu'il donne la moitié du manteau, vous savez, les images, on le voit avec son glaive, toi qui est en train de couper le manteau, comme ça, vous êtes dans les images d'Épinal un peu, il donne tout ce qui lui appartient, mais il ne donne pas ce qui ne lui appartient pas. Hein? Voilà l'illustration de ce que peut être cette nouvelle manière d'être, fondée sur l'amour, la considération de l'autre. Finalement, il voit un mendiant, et bien il lui donne tout ce qu'il peut lui donner véritablement, hein, pour que l'autre puisse vivre. Mais c'est ça la nouvelle naissance aussi. C'est ça qui fait que lorsqu'on est face à quelqu'un qui veut du mal, il ne s'agit pas de l'affronter pour l'écraser finalement, mais peut-être de l'affronter pour lui présenter autre chose, pour dévier finalement l'attaque, si je puis dire, pour dévier l'injure, pour dévier l'injustice, pour essayer de la retourner, pour pouvoir faire quelque chose de positif finalement, pour désamorcer l'agressivité aussi. Tout ça est important, mais
Mais tout ça n'est pas si simple comme cela dans un monde de concurrence tel que notre monde est fait aujourd'hui, avec toutes ces publicités, toutes ces consommations ostentatoires, toutes ces peurs qui sont là, que l'on manie à tire-larigot un petit peu. Pourtant, être un autre être que celui que l'on est en apparence pour être véritablement soi-même, quelqu'un qui vit d'amour et qui a envie de partager cet amour, c'est quelque chose d'essentiel finalement. C'est ça l'essence de l'humanité. C'est ça ce que Dieu voudrait faire surgir en nous finalement pour que nous puissions vivre dans la joie et dans l'espérance. Oui, ça consiste à abandonner une manière de voir le monde, une manière de voir les autres, hein, pour entrer dans une nouveauté de vision du monde et des autres. C'est intéressant parce que le baptême, dans le baptême de l'esprit, qui est signifié par le baptême d'eau qui est le symbole de la purification, évidemment, de la nourriture, de la vie, eh bien, le baptême dans l'esprit nous dit cela. Il y a en nous véritablement quelque chose d'extraordinaire qui est cet esprit qui nous transporte, qui est toujours là, prêt à nous faire sortir de nous-mêmes, de la sorte qu'on puisse, comme disent les jeunes, s'éclater véritablement dans la vie. Et je crois qu'il faut vraiment le faire et le saisir pour aller vers les autres et vers le monde. Je crois qu'il y a une sorte de danse. Hein. C'est un grand théologien qui s'appelle Jürgen Moltmann, qui doit être très âgé aujourd'hui. Je crois qu'il n'est pas mort, mais il est très très âgé. Il fait partie de cette grande génération des Bultmann et autres, qui écrit « Le Seigneur de la danse » en parlant de Dieu. Dieu nous invite à danser la joie véritablement, hein, à danser dans son royaume, qui est un royaume d'espérance, un royaume plein de lumière et plein d'amour, finalement. La nouvelle naissance, la nouvelle manière d'être, la nouvelle manière de concevoir nos frères et sœurs, les autres, eh bien, elle est fondée là-dessus, elle est fondée sur cette joie de la présence de Dieu, de l'Esprit, qui est une dynamique qui est en nous, finalement, qui est l'Esprit de la résurrection, de la nouvelle vie, de la plénitude. C'est l'Esprit, finalement, qui nous permet de vivre les prémices du royaume, tant attendu, tant espéré. Amen.